Je me rappelle qu'on lui a parlé il y a quelques semaines, juste avant qu'on débute l'aventure de Star Academy. Là, ça fait quelques semaines que c'est commencé, puis sur ma feuille, je prenais des notes. Puis il y a quelques thèmes que je voulais, dont je voulais lui parler. C'est avec Grégory Charles qu'on va parler dans les prochaines minutes. Grégory, salut, bon lundi!
Salut, bon lundi à toi aussi!
Hey, je voulais qu'on commence par les mises en danger. Là, je te le dis, là, j'ai plein de thèmes sur ma feuille. Tu vas voir, on va faire le tour. On va commencer par les mises en danger en fin de semaine, hier, en fait. L'UNO, finalement, qui a passé vote du public. Puis il y en a certains qui se demandaient la semaine dernière pourquoi elle est en danger. Ma question, Grégory, c'est tantôt, tu vas le faire. Tantôt, vous allez faire les cinq candidats qui sont en évaluation cette semaine. Mais quand vient le temps de prendre cette décision-là, à savoir qui est en danger pour la semaine, vous basez sur quoi? C'est pas nécessairement toujours sur une prestation vocale. Il y a aussi d'autres raisons, probablement, qui expliquent une mise en danger, comme par exemple l'UNO la semaine dernière.
Oui, ben en fait la réponse est plus difficile qu'elle ne le semble parce que on a Lara, Ariane et moi, on n'a pas la même perspective sur ça. Alors on arrive avec des perspectives différentes. Moi, ma perspective, c'est que il faut les entendre. faut les entendre chanter. Alors, je suis toujours favorable à ce qu'on entende le plus rapidement possible l'ensemble des candidats. Évidemment, on peut pas en entendre plus que trois par semaine. Alors, moi, j'arrive de cette perspective-là. Lara, je pense, arrive de la perspective de mettre en danger va nous permettre de d'accentuer un élément qu'on pense qu'il a besoin d'être amélioré. Donc, je veux pas parler pour Lara, là, mais j'ai envie de dire, la semaine dernière, elle trouvait que l'UNO était un petit peu réservé, était un petit peu... dans sa bulle, peut-être pas prête à prendre toute sa place. Et puis je pense qu'Ariane, elle arrive de la perspective de, bon, ben qu'est-ce que c'est qui a le plus de misère dans tout ça? Alors le mélange des trois fait qu'on finit par s'entendre sur qui est-ce qu'on pense qui devrait être en danger. Ultimement, c'est pas parce que c'est ma perspective, mais ultimement, je pense que tout le monde finit par se rallier au fait que il faut les entendre. C'est un concours de popularité aussi, hein, en partie. Fait que c'est sûr que tant que t'as pas entendu des gens comme il faut, ben tu peux pas embarquer dans leur camp. C'est facile, je pense, pour les gens qui ont entendu Guillaume beaucoup de se dire je l'aime, il chante bien. On a entendu Cheyenne. Il y a beaucoup de gens qui aiment Cheyenne. Alors ils peuvent se dire, si on l'a entendu, je l'aime. On a entendu Rosalie déjà, on a entendu Zara déjà, on a entendu Maëva déjà. Alors les gens qui aiment ces candidats-là, ils ont plus de facilité à se faire une idée. L'UNO, on l'avait pas entendu. Tu vois, moi, je m'en vais faire ça en ce moment, puis c'est sûr que moi, même si Jacob a eu une fin de semaine fantastique où il a été bon dans tout ce qu'il a fait, moi, je vais proposer qu'on mette Jacob en danger parce que
il est rendu
on a besoin
là.
De l'entendre. On l'a pas entendu. William, la semaine où il a été mis en danger, donc pas cette semaine, mais la semaine précédente, il avait pas été mis en danger parce qu'il avait pas bien fait. Au contraire, il était presque pas là. Il était parti accompagner sa blonde avec la naissance de leur deuxième enfant. Mais on avait besoin de l'entendre. On l'avait presque pas entendu. Alors, c'est sûr que moi, je vais encourager aujourd'hui le fait qu'on entende Jacob, le fait qu'on entende Dashni. On n'a pas entendu Dashni beaucoup. Dashni, dans son cas, ça a été un peu plus difficile en fin de semaine. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas faciles pour lui à faire. C'était pas tout à fait dans son répertoire et dans ses habitudes. Mais moi, je vais pas proposer qu'on l'entende pour cette raison-là. Je vais proposer qu'on l'entende parce qu'il est temps qu'on l'entende.
Ouais, je comprends.
Les autres vont arriver avec leur perspective.
J'aimerais ça aussi que tu m'expliques comment ça fonctionne, parce que oui, on parle de mise en danger, mais il y a un spectacle aussi à monter. Puis là, t'en as parlé, la préparation de Dashni, la préparation des candidats. On vous voit autour du piano, on vous voit pratiquer les tunes, mais dans la réalité des choses, vous passez combien de temps dans une semaine à préparer ce variété-là? Parce que je sais pas si c'est juste mon impression à moi, mais comparativement à d'autres saisons qu'on a vues auparavant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de matériel à préparer pour les variétés avec toutes les medleys et les différents artistes qui viennent sur la scène de Star Academy.
Ben, c'est clair que moi, j'ai pas fait les premières années de Star Academy 2003-2005, j'ai pas fait ces années-là. Mais j'ai fait l'année 2012, qui était déjà une année où les candidats avaient beaucoup de choses à faire. Et je dirais que des candidats de cette année ont à peu près le double à apprendre. Wow. Pour la simple, oui. Puis il y a quelques raisons qui rentrent là-dedans. Mais la raison la plus évidente, c'est qu'évidemment, à cause de la pandémie, et strictement à cause de la pandémie, on n'en a pas des émissions, mettons, où comme il y a 9 ans, il y a 10 ans, quand on avait, Johnny Hallyday, Michel Sardou, Jason Mraz, puis Lionel Richie, c'est dans le même spectacle.
C'est vrai.
Ou Ginette, ou Céline. Alors, comme les gens peuvent pas faire la quarantaine quand ils viennent d'ailleurs, ben forcément, le spectacle qui est aussi long, même des fois un tout petit peu plus long que la dernière fois, il y a une dizaine d'années, ben forcément, ça retombe sur les académiciens. Heureusement, les académiciens, cette année, d'abord, ils sont bons. C'est vrai qu'ils sont bons. Deuxième chose, ils ont bénéficié de la quarantaine. Moi, j'ai commencé à travailler avec eux au mois de janvier, avant qu'on commence. Alors que, tu vois, j'ai vu mon ancienne gang hier lorsqu'ils sont venus à Starac. Mon ancienne gang, ils se sont rencontrés vraiment le premier soir, le soir du premier variété, puis on a commencé à travailler à partir de là. Fait que c'est sûr que les actuels, ceux de 2021, qui ont passé une couple de semaines à vivre leur quarantaine dans un hôtel où j'allais travailler avec eux en distanciation, ben ça les a servis. Ça explique une autre chose aussi, hein. Ça explique aussi le fait qu'ils sont tellement désemparés.
Oui.
Il y en a un, à tous les lundis, quand il y en a un qui part, le dimanche soir, j'en parlais avec avec Sophie Pelletier, puis Andréane Amalette, puis Jean-Marc, puis Olivier Dion, tu sais, puis Andy et Mélissa, hier, j'en parlais, c'est pas parce qu'ils s'aimaient moins, ils s'aimaient eux autres aussi, mais ils se connaissaient moins.
Et c'est là que je voulais aller, Grégory, parce que la semaine dernière, tu le disais, puis un moment donné, Olivier Dion est venu pendant un de tes cours, puis tu y avais demandé devant les académiciens. J'aimerais ça que de l'interne, tu nous expliques c'est quoi la relation entre les académiciens, parce que t'as raison. On arrive le lundi, puis on sent que le départ de l'un d'entre eux a un impact sur le reste de la gang.
Oui, ça c'est vraiment, je pense, mais d'abord, c'est une belle gang unie, mais ils ont... Ça fait plus longtemps qu'ils sont ensemble que la gang de 2012. On a fait un bootcamp avec eux donc à la fin de l'année dernière, à la fin 2020. Moi, j'ai travaillé avec eux toutes les fins de semaine à partir du début du mois de janvier. Et ça va me permettre en même temps de répondre à ton autre question de combien de temps on passe à préparer les variétés. Tu vois, moi, je passe 25 heures dans la semaine à l'académie. Et puis, la plus grande partie de ça, je la passe à préparer les variétés. Alors, je dis pas ça pour me vanter, là, je dis ça pour que, évidemment, quand ils sont tout le monde ensemble, puis qu'ils préparent des variétés, ben ils se rapprochent. Ils sont proches, puis ils s'entendent les uns les autres. Puis quand on décide qu'on monte une affaire titanesque comme Queen, la semaine qu'on a fait hier, ben c'est sûr qu'ils se serrent les coudes puis ils savent bien que ça va pas être facile. Puis tu sais, alors tout ça, ça les rapproche. Puis là, ben moi je passe ces heures-là, mais après ça, le jeudi, ils arrivent avec Team White, puis là, Team White passe plusieurs heures à monter des chorégraphies pour les bouts chorégraphiés. Alors, ils travaillent, c'était déjà intense en 2012. Cette année, c'est encore plus intense parce qu'il faut qu'ils apprennent beaucoup, beaucoup de choses. Dans le même laps de temps.
Et en plus, qu'ils vont composer avec Ariane Moffat la présentation de l'EP demain, tout ça. Mais moi, ma question là-dedans, c'est, tu l'as dit, ça fait tellement longtemps que tu les côtoies, tu as commencé à travailler avec eux au mois de janvier dernier. Déjà, on sentait qu'au début, il y avait des objectifs pour chacun d'entre eux. Est-ce que les académiciens sont rendus au niveau à lequel tu t'attendais qu'ils soient rendus à ce moment-ci de l'aventure?
Oui, à peu près. Qu'ils sont rendus plus loin que ce que je prévoyais. Ils sont pas rendus plus loin que ce que je prévoyais. Puis ma réponse va te permettre peut-être de conclure que moi j'ai vraiment l'impression que ça peut être la meilleure cohorte de Starac qu'il y a eu. Pas individuellement. T'sais, individuellement, ça lèvera pas à Annie Villeneuve la qualité de sa voix puis son oreille, puis à Marie-Mé la qualité de ses performances, puis à t'sais, tous les autres, Marc-André... Maxime, Stéphanie Apprenti, tous ces gens-là, tu leur enlèveras pas du tout ça. Mais en termes de groupe, on est vraiment en direction du meilleur groupe, certainement. Puis le groupe aussi, qui va sortir le mieux préparé pour le showbiz. Ils vont avoir fait plus de création, plus de recherche d'identité artistique. Ils vont avoir fait plus de travail d'oreille, plus de travail vocal, plus de travail d'interprétation. Ils vont vraiment avoir fait plus de tout. Normalement, dans Pharax, on a l'expérience d'enregistrement en studio, elle était limitée pas mal à préparer le disque qui sort quelque part le plus tard. Mais là, tu sais, le EP, le disque qui va éventuellement sortir, toutes ces expériences-là sont des expériences que dont les autres n'ont pas bénéficié. Alors, moi, je pense qu'ils vont sortir encore mieux préparés, plus préparés que jamais pour le showbiz. Et aussi préparés en fonction du showbiz d'aujourd'hui, qui est pas le même que ce que c'était il y a 10 ans.
Effectivement. Puis est-ce que c'est ce niveau-là qui vous amène à prendre la décision que vous avez prise hier? Parce que on va le rappeler peut-être aux gens qui auraient manqué le variété d'hier ou bien qui s'en rappellent pas, mais vous allez lancer les demandes spéciales avec les académiciens. Donc, est-ce que le niveau que vous voyez sur scène présentement vous a permis de prendre une décision comme celle-là et d'amener le concept des demandes spéciales avec les auditeurs?
Oui. Puis moi, j'ai envie de te dire, ils m'ont prouvé qu'ils sont capables de faire ce genre de choses-là. Ils ne seraient peut-être pas capables individuellement, parce que, qu'est-ce que tu veux, c'est pas une question de talent, c'est une question d'âge. T'sais, tu peux pas avoir une connaissance d'un gigantesque répertoire quand t'es un kid. Mais ils sont déjà pas mal forts. Je dirais l'élément qui justifie le plus cette idée des demandes spéciales, c'est que Ariane pousse beaucoup pour les encourager à créer. Que je trouve qui est une très, très bonne idée. Parce que quand tu crées, tu es obligé de comprendre comment ça se fait une chanson. Et tu es aussi en mesure de mieux apprécier les chansons que tu interprètes, qui ne sont pas de toi. Fait que c'est déjà une bonne idée. Puis on a eu la preuve avec Matt, il nous a créé une belle chanson dans le courant de la semaine. Imagine s'il travaille là-dessus pendant 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, 5 mois, et qu'il en fait d'autres. Alors, elle pousse beaucoup là-dessus. Lara pousse beaucoup sur l'interprétation, sur s'approprier une pièce, sur bien aligner l'articulation, puis l'intonation, puis ça. Alors, moi, je pousse sur plein de choses, évidemment, mais je pousse entre autres sur l'importance pour un artiste d'absorber ce que les autres font et ce que les autres ont fait. Puis, tu sais, je leur parle de ça à chaque semaine. Je ne pense pas qu'à notre époque, un artiste, un chanteur, un auteur-compositeur qui connaît juste ses propres patentes à lui ou à elle, je pense pas que ça peut marcher. Je pense pas que ça peut durer. Il faut être capable d'absorber ce que les autres font. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'autrefois, il n'y avait pas 1000 genres de musique. Mais aujourd'hui, il y en a plein des niches de musique. Puis si tu es en train d'écrire tes propres chansons puis tu n'es absolument pas conscient de ce que les autres font, ben d'après moi, tu vas rapidement être en retard.
Ouais,
la collaboration est extrêmement importante. Alors, se préparer pour les... J'ai envie de te dire, là, quand je l'ai annoncé, ils ne le savaient pas. Ils ont tous réagi, « Ouais, ouais, c'est super. » Mais après ça, ils ont commencé à poser des questions. Comment est-ce qu'on va faire ça?
Parce qu'ils voient qu'est-ce qui s'en vient, là.
Ils sont un peu incontinents, là. En ce moment, ils savent pas trop... Qu'est-ce qui va arriver si je leur demande de chanter quelque chose qu'ils connaissent pas sur la scène? Alors, le travail va être intéressant cette semaine et la semaine prochaine.
Et Grégory, en terminant, j'ai envie aussi de t'enligner sur le fait que, tu sais, je t'écoutais la semaine dernière en parler avec Olivier Dion. Tu connais la carrière des anciens académiciens, tu les suis de loin. T'as l'impression, tu donnes l'impression que t'as vraiment à cœur ce qu'ils font présentement du côté de l'académie. À quel point t'es fier des académiciens qui sont devant toi, puis aussi d'un peu le rôle que t'as joué là-dedans, parce que une grosse partie du travail, c'est toi qui va la réaliser dans une semaine avec Lara Fabian, avec Ariane Moffat, mais t'es omniprésent dans leur vie quotidienne présente. Donc, à quel point tu es fier de ce que tu vois des anciens académiciens et de ceux qui sont là présentement?
Je suis très, très fier. Tu sais, je pense que les gens qui écoutent ton émission en ce moment, là, qui ont des enfants, qui ont des frères, des sœurs, mettons ceux là, qui jouent au hockey, là, filles ou garçons, là, puis c'est leur frère ou leur sœur qui est vraiment bonne dans le sport, puis que Eux autres aussi, ils se lèvent à 4 heures le matin, le samedi matin, pour aller jouer, je sais pas trop. Là. On n'en a pas eu beaucoup pendant la pandémie, là, mais c'est en temps normal. Là. Quand l'autre réussit, là, que ce soit notre frère, notre soeur, notre enfant, notre petit-fils, on est fiers pour eux, on est content pour eux, mais on est aussi fiers parce qu'on sait très bien qu'il y a une partie de ce qu'ils deviennent, que ça vient de nous autres. Et c'est pas prétentieux de dire ça. C'est ça, la vie. Tu sais, moi, là, j'ai fait de la tournée avec Céline pendant 2 ans. Et le nombre de personnes que j'ai rencontrées après des spectacles, qui étaient dehors, qui espéraient de voir Céline, puis qui me croisaient, moi, puis qui me disaient, « Hey, tu sais quoi, moi, là, je la suis, Céline, depuis 1983, depuis 1981. » Qu'est-ce que ça veut dire quand ils disent ça? Quand ils disent ça, ça veut dire que dans leur tête, le succès de Céline, c'est un peu à cause d'eux. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est fantastique. C'est pour ça qu'on adopte quelqu'un et qu'on est content de leur succès. Alors moi, quand j'entends François Lachance, même si je parle à François Lachance à toutes les 2-3 ans, ben je suis fier de lui, mais je me dis aussi, ah, il y a une toute petite partie de moi là-dedans. Puis quand je parle avec Sophie Pelletier, avec Adriana Mallette, avec Mélissa Bédard, ou avec Simon Morin du groupe de 2012, je me dis aussi, il y a une petite partie de moi dans ça. Mélissa Bédard est très cool parce qu'elle n'arrête pas de me répéter qu'il y a une grosse partie de moi dans ce qu'elle est devenue et dans ce qu'elle a fait. Mais je suis comme tous les profs, je suis comme tous ceux qui nous ont enseigné en première année, deuxième année, troisième année, qui ne nous revoient plus jamais de la vie, puis qui découvrent que, tu sais, on entend souvent les humoristes dire ça, là. On entend souvent les humoristes dire, moi, c'est ma prof de deuxième année qui m'encourageait à faire des jokes à condition qu'elle soit bonne. Tu sais, plutôt que de me dire de me fermer, elle me disait, fais-la ta joke, mais assure-toi qu'elle est bonne. Puis qu'ils disent, c'est comme ça que je suis devenu humoriste. C'est ça. Alors moi, ma fierté, elle est très grande, parce que je les vois grandir, je les vois continuer, je les vois être résilients, je les vois être persévérants, puis j'ai le même espoir pour le groupe que j'ai maintenant, y compris parmi les candidats qu'on a déjà perdus au cours des dernières semaines.
Ben, y a de quoi être fier, Grégory. Ça a été, depuis le début de l'aventure, je pense qu'on a d'excellentes variétés qui sont vraiment bons cette année. Puis je te laisse aller parce que tu t'en vas présentement du côté de l'évaluation. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner dimanche prochain. Mais un gros merci, Grégory, d'avoir pris quelques minutes. T'es toujours généreux.
Ça me fait vraiment plaisir. À bientôt.